France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La mobilisation historique l'aura finalement fait libérer. Le journaliste russe Ivan Golunov, accusé de trafic de drogue par les autorités russes, a été disculpé hier. Un recul rarissime en Russie à la mesure de l'indignation et de la mobilisation suscitée par cette affaire dans la société civile. Dès l'annonce par le ministre de l'Intérieur de ce revirement hier, le reporter de 36 ans, assigné à résidence depuis samedi, a été conduit dans les locaux de la police. Il s'est vu signifier la fin des poursuites et son bracelet électronique lui a été retiré. Des scènes de rassemblement de masse encore à Hong Kong. Des milliers de personnes se sont retrouvées ce matin. Elles ont bloqué une artère proche des bureaux gouvernementaux. Il s'agit toujours de protester contre un texte de loi sur les extraditions qui faciliterait le transfert de suspects de Hong Kong vers la Chine. L'examen de ce texte de loi vient d'être reporté par le gouvernement sur place. Nous essaierons d'y aller dans le journal de 6h30. L'opposition soudanaise et le conseil militaire de transition ont accepté de reprendre leur discussion hier. Il s'agit de l'actualité au Soudan, donc. Des négociations sur la formation d'une nouvelle administration vont commencer. Pour rétablir la confiance entre les deux parties, les militaires ont accepté de libérer des prisonniers politiques. L'opposition avait, elle, un peu plus tôt annoncé la suspension de sa campagne de désobéissance civile et de la grève générale dans le pays. L'Union européenne exclut toute renégociation de l'accord sur le Brexit avec la Grande-Bretagne. L'élection d'un nouveau Premier ministre n'y changera rien. Voilà ce que dit Bruxelles. Plusieurs candidats outre-Manche, dont l'ancien ministre Boris Johnson, avaient menacé de vouloir renégocier cet accord pour une sortie plus favorable envers Londres. C'est la deuxième déclaration de politique générale du quinquennat Macron. Édouard Philippe est attendu cet après-midi à 15h devant les députés à l'Assemblée nationale. Dans son discours, le Premier ministre va devoir préciser les contours de l'acte 2 annoncé fin avril par le président de la République. C'était après le grand débat national, une déclaration qui sera suivie cet après-midi d'un vote de confiance.
Le 16 juillet, prenez l'air du Nord avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France au Festival Radio France Occitanie Montpellier. Au programme, le deuxième concerto de Liszt avec le pianiste Evgeny Kissin et la cinquième symphonie de Prokofiev. Infos et réservations sur lefestival.eu.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est devenu, au fil des années, un pèlerinage incontournable pour les catholiques. Même le pape François s'est rendu dans ce petit village portugais qui porte le nom arabe de Fatima pour marquer, en 2017, le centenaire de l'apparition de la Vierge Marie à des jeunes bergers âgés de 7 à 10 ans. Et ce qui n'était qu'un petit village un siècle plus tôt accueille désormais chaque année plusieurs centaines de milliers de pèlerins. Dans un beau film qui sort au cinéma aujourd'hui, le cinéaste João Canijo suit le pèlerinage de 11 femmes d'un même village du nord du Portugal, 400 km à pied en 10 jours jusqu'à Fatima. Une épreuve physique, une épreuve aussi psychologique. Le réalisateur du film, João Canijo, du film 11 fois Fatima, est notre invité ce matin.
Le réveil culturel.
Bonjour.
Mercredi, cinéma.
À la fin de votre beau film, João Canijo, on a l'impression qu'on a marché avec vos actrices. On a vraiment l'impression qu'on a fait les 400 km et qu'on a vécu les mêmes épreuves qu'elles, parce que Parce que Fatima, donc, c'est pas le lieu qui vous intéresse, même s'il figure dans le top 10 des plus grands pèlerinages catholiques dans le monde, avec celui de Notre-Dame de Lourdes en France, par exemple. Mais votre film, En soi Fatima, qui suit 10 femmes de générations différentes qui vont accomplir ce pèlerinage, n'est pas vraiment un film sur leur quête religieuse, ou pas seulement, c'est un film sur le genre humain, sur ce groupe de femmes contraintes de rester ensemble 24 heures sur 24, confrontées aux défis qu'impose ce périple, hein, à travers un paysage sauvage. Et quand je dis un paysage sauvage, ça ne veut pas dire seulement la nature, il y a aussi les autoroutes, les bretelles d'autoroutes, les routes périlleuses où parfois elles risquent leur vie, où elles vont se dévoiler, si j'ose dire, au fur et à mesure qu'elles avancent dans l'extrême dureté physique de ce voyage. L'idée de départ, c'était de parler de l'humain, et ce pèlerinage à Fatima n'est qu'un prétexte.
C'est-à-dire que l'idée initiale, c'était de parler du genre femme. Et comment essayer de trouver une situation, une circonstance où je pourrais les forcer à vivre 24 heures sur 24 sans pouvoir s'enfuir. Et tout de suite après, l'épiphanie, c'était le pèlerinage à Fatima, à pied. Là, elles sont obligées d'être ensemble 24 heures sur 24 heures. Et surtout, dans des conditions de fatigue extrême. Ça rend beaucoup plus fréquents et aigus les conflits. Parce que la fatigue te enlève l'inhibition. Et tout est beaucoup plus à fleur de peau. Mais à partir du moment, bien sûr, où j'ai trouvé que c'était le pèlerinage, le film a cessé d'être seulement ça, pour passer à être le conflit ou le paradoxe entre la quête de la spiritualité et le genre humain.
Et le genre humain.
Et le genre humain, il va gagner, quoi. Il gagne toujours.
Est-ce qu'on peut dire que ce film est aussi traversé par les doutes liés au grand mystère du monde, de la religion?
L'intention première des personnages, ou des comédiennes, ou de ces femmes-là, c'était ça. Sauf que le genre humain et les accidents de parcours vont dépasser tout ça.
Mais je voulais vous poser la question à vous, en réalité, Joao Canijo. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes porté par une forme de spiritualité?
Ah non, pas du tout. Je l'ai fait moi-même le pèlerinage, un petit, pas le grand. J'ai fait 2 jours pour essayer de comprendre pourquoi les gens faisaient tellement un effort tellement grand. L'effort est bien plus douloureux de ce que je croyais. Et je suis abouti à la fin de mon pèlerinage personnel sans rien comprendre. Par contre, j'ai compris que la quête de la spiritualité, c'est pas seulement ça. C'est comme qu'une sorte de compétition ou de rencontre avec soi-même que les gens recherchent.
Et c'est une forme de spiritualité, même si elle est pas...
Mais c'est d'une façon assez inconsciente. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Rien. La plupart des chemins de Saint-Jacques, Santiago on dit en portugais et en espagnol, c'est des beaux chemins. On ne marche pas plus que 25 km par jour, ce que c'est parfaitement faisable. Et on a le temps, parce qu'on n'a pas la fatigue, on a le temps de la contemplation, non seulement des lieux, mais de soi-même. Et d'essayer ce rapprochage au spirituel. Sur les chemins de Fatima, c'est impossible. Parce que l'effort, il est trop grand. C'est plutôt une épreuve. Ou peut-être, on se dit, et c'est très portugais ça, on se dit, si on n'a pas d'effort, si on n'a pas de souffrance, le pèlerinage n'a pas de valeur.
Il y a 2 semaines, Joao Canijo, je recevais Antoine Debecq, qui lui était un marcheur, mais sur les chemins de la transhumance. Il a fait tout le tracé, toute cette randonnée, autant de kilomètres dans les Alpes. Mais même si lui, il l'a fait en tant que marcheur, il était bien sûr hanté par cette histoire pastorale, ancestrale, des bergers et des moutons. Vous-même, quand vous empruntez les routes qui mènent à Fatima, en tant que réalisateur et de toute évidence pas croyant, est-ce que, en passant par là ou plusieurs pèlerins, des centaines de pèlerins, des centaines de milliers de pèlerins sont passés. Vous avez pu ressentir ce que pouvait être la foi.
On ressent ça surtout quand on arrive au sanctuaire. Surtout le soir du 12 mai, il y a au moins 300 000 personnes avec des bougies dans,
dans
la main.
Et tout est illuminé.
Et le sentiment de soulagement qu'on a et de devoir accompli qu'on a et le fait de voir tous les autres groupes qui arrivent aussi épuisés que nous, ça fait comme qu'on se rejoint dans une communion émotionnelle au moins. Il faut dire que Fatima, c'est assez récent. Ça a un siècle. Donc ça n'a pas la même tradition, ni de Lourdes, ni de... et surtout pas de Saint-Jacques.
Dans votre film, En soi, Fatima, vous alliez la fiction et le documentaire. Et encore, il faut connaître votre cinéma, il faut reconnaître vos comédiennes pour qu'on se rende compte tout de suite qu'il s'agit d'une fiction. Mais ce que vous avez fait, c'est que vous avez travaillé avec vos comédiennes qui interprètent le rôle de ces femmes qui vont accomplir ce pèlerinage et vous les filmez dans des situations où elles vont rencontrer des vrais pèlerins.
C'est-à-dire qu'elles l'ont fait comme ça pendant la préparation du film. Elles ont fait des vrais pèlerinages insérés dans des groupes de vrais pèlerins et des pèlerinages très difficiles et très épuisants. Dans le film, pas vraiment. C'est-à-dire que
alors,
les gens qu'elles rencontrent,
oui,
tout
gens,
est cinéma.
Même les gens qu'elles rencontrent.
Sauf que les gens qu'elles rencontrent, c'est des figurants qui sont été choisis parmi des gens qui en avaient fait le vrai pèlerinage. Il n'y a que des pèlerins dans les figurants du film. Donc c'est à peu près comme si on rencontrait des vrais.
Est-ce que le film était écrit? Parce qu'on va on va commencer à parler des personnages, hein, de ces femmes qui vont vivre ensemble, qui vont partager des épreuves physiques ensemble, des repas, des nuits ensemble, et de la crise de nerfs qui va arriver elle, tout de suite, obligeant chacune de ces femmes de se dévoiler. Mais est-ce que ce film était écrit?
Le plus grand éloge qui me réjouit le plus, c'est quand on me demande si les actrices, les comédiennes sont tous des actrices professionnelles. J'ai dit, j'ai gagné le pari. Oui, elles sont tous des actrices professionnelles. Et l'intention du film, depuis le départ, depuis le moment où j'ai structuré l'idée, c'était de faire une fiction déguisée de commentaire. Et c'est réussi. Ça, c'est réussi. Et je suis très content de ça. C'est-à-dire que rien n'est inventé dans le film.
Tout était écrit.
Non, tout est volé de la réalité. On ne pouvait pas mettre toutes les comédiennes dans un groupe de pèlerins, ça n'allait pas marcher. Donc il fallait les diviser. Donc elles ont eu beaucoup d'expériences totalement différentes. Il s'agissait de mixer tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a envie d'inventer un faux pèlerinage. Faux pourquoi? Parce qu'en lieu de marcher 50 km par jour, elle ne marchait que 20. C'était un peu comme le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Mais elle logeait et habitait et se nourrissait dans exactement les mêmes situations, conditions, exactement les mêmes du film. Et elles étaient filmées 24 heures sur 24. Avec un son que pouvait se comprendre.
Comme dans une télé-réalité.
Oui, voilà, très bien dit. Exactement ça. Comme dans une télé-réalité, exactement. Et c'est de la transcription de tout ce qui s'est passé dans le faux pèlerinage qui est sorti le deuxième ébauche du scénario. Et dans le faux pèlerinage, on a essayé de reproduire des situations qui s'avaient passées dans les vrais pèlerinages. Et là, les personnages étaient... Ah, parce que oui, bien sûr, elles étaient forcées de maintenir le personnage pendant ces 24 heures sur 24, tout le temps.
Minha querida, pensar na minha avó. Nossa, não comeces. Por favor, não comeces com as histórias da tua avó e da tua prima e da tua tia, que eu não aguento, que eu venho muito aflita. A sério. Mas olha, em vez de andar assim, se puseres as pernas mais assim, olha, abres mais... Andas mais devagar?
Céu, tem paciência, que caralho.
Vá lá, eu sei que tu és muito melhor que eu em tudo, mas agora, por favor, deixa-me em paz com as minhas patas e com as minhas pernas, está bem?
Un extrait de 11 Fatima de Joao Canijo qui sort aujourd'hui au cinéma et qui suit donc 10 femmes de générations différentes dans ce pèlerinage à Fatima. Là, ça commence à se disputer. Là, on voit que la fatigue va faire que ces femmes vont se balancer quelques vérités.
En réalité, dans le reality show, hein, ça commence à se disputer à la fin de la première journée.
Ouais.
Sauf qu'il y a beaucoup de changements d'émotions, changements d'attitude, changements de comportement. Si elles sont très fâchées un soir, le matin suivant, elles sont déjà très copines à nouveau. Et là, quand elles soufflent, là, c'était une pente assez arpentée. On démarrait pas le tournage, on disait pas action, et elles étaient arrêtées, non. On les faisait marcher une heure ou deux avant, et après on commençait la scène.
Comment vous vous êtes situé ou positionné avec...
Chef op, il souffle pas.
Pourquoi il souffle pas, dis-nous?
Parce qu'il est assis dans une petite voiture électrique.
Ouais.
Qui était assez mince pour pouvoir les suivre dans les routes sans être
même dans les sentiers
écrasés
tortueux
par les camions. Oui, même dans parce que les sentiers tortueux, quand même, le sol, comment est-ce qu'on dit?
Le sol,
il est assez convenable pour une petite voiture électrique.
Est-ce que vous diriez que ce film, vous l'avez réalisé au montage?
Ah non. Non. Si il y a de l'improvisation dans les scènes de la part des comédiennes, il y a, même si c'est une improvisation très, 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 vraiment très balisée par une scène qui était déjà écrite, non, je ne l'ai pas réalisé au montage, tout était prévu, tout a été très planifié, tout a été très découpé.
Alors que raconte Ponce Fatima, d'après vous?
Ça raconte le conflit. Je préfère le mot paradoxe, entre la recherche de la métaphysique et le genre humain. C'est ça que ça raconte. Et ça raconte aussi beaucoup d'autres choses. Ça raconte aussi les relations très vives, très émotionnelles entre les femmes, entre des femmes qui sont forcées à être ensemble 24 heures sur 24 heures.
Qu'est-ce que ça raconte du Portugal, votre film, Ponce Fatima?
Pour moi, ça raconte beaucoup du Portugal, parce que ça raconte exactement comme les Portugais voient un pèlerinage qui, normalement, c'est une recherche de la transcendance ou du rapprochement spirituel avec un dieu quelconque, qui est vu et senti comme une épreuve. Et le fait d'être une épreuve, senti et ressenti comme une épreuve, je crois que c'est particulièrement portugais.
Le réveil culturel. Tufik Hakem.
Eu já não sei se fiz bem ou se fiz mal em pôr um ponto final na minha paixão ardente. Eu já não sei porque quem sofre de amor a cantar sofre melhor. As mágoas que o peito sente quando te vejo e em sonhos sigo os teus passos. Sinto o desejo de me lançar nos teus braços. Tenho vontade de te dizer frente a frente quanta saudade há do teu amor ausente. Num louco anseio lembrando que já chorei. Se te amo, se te odeio, eu já não sei.
Dans le film « Onze fois Fatima » de notre invité ce matin, João Canijo, film qui sort aujourd'hui au cinéma, la fiction est totale, même si on a l'impression qu'on est en train de suivre un documentaire. C'est une fiction, mais très documentée, puisque les comédiennes ont accompli ce pèlerinage à Fatima durant, peut-être pas durant 10 jours, et en parcourant les 400 kilomètres à pied. Mais c'est une histoire de femme, ça vous l'avez dit, João Canijo, même si à certains moments de ce film, de ce long film, qui prend d'ailleurs le temps aussi de nous faire ressentir le temps passé à marcher. Dans ce film, il y a l'apparition d'un homme, enfin un homme qui vient bousculer un peu le groupe de femmes. Est-ce que ce rôle, est-ce que cet homme est censé vous représenter vous-même ?
Non.
Alors, mais pourquoi vous l'avez mis ?
Bien sûr, c'est l'intro qui va bousculer tout.
Ouais.
Et le film, il est documental tel quel, parce que tout est volé de la, tout est tiré de la réalité, rien n'est inventé.
Et tout est joué en même temps.
Et cet homme, il est arrivé exactement comme ça, dans un des vrais pèlerinages que les comédiens ont fait. Et il a bousculé tout le groupe exactement comme dans le film. Et d'ailleurs, le vrai personnage, le vrai homme, il est à la fin du film. Il est là. Le mec qui joue, c'est un comédien, mais le vrai personnage qui est venu de rien, de nulle part, et qui essaye de sauver quelqu'un qui était en détresse, et en faisant ça, bouscule tout le groupe et crée des conflits insolubles, il a vraiment existé. Ça, c'est vraiment arrivé comme ça. Non, c'est pas moi. Moi, c'était seulement le méchant monsieur qui a obligé toutes ces femmes à faire tout ce parcours à pied.
Que raconte aussi sur l'attachement à la terre portugaise ce film ? Parce qu'on a l'impression qu'elles y tiennent à leur terre, à leurs coutumes, à leur lieu.
On a choisi le pèlerinage le plus long du Portugal. C'est celui qui vient du Nord-Est. Et on a eu la chance de trouver un groupe de vrais pèlerins qui a inspiré le film, qui vient d'un village, d'une ville assez petite au Nord-Est du Portugal. Plus elle est petite la ville, plus les gens sont fiers de leur ville et attachés. Et c'est ce qui se passe. Mais ça, c'est pas un truc portugais. Tout simplement, c'est un truc de partout.
Mais pour vous, c'était pas une manière aussi de filmer le territoire, filmer le Portugal d'aujourd'hui?
Ah oui.
Et de jouer
prévu
aussi
prévu
bien.
De le faire encore ouais. Plus que ça, mais on n'a pas eu, les circonstances ont pas permis. Bien sûr, parce que le chemin est non seulement difficile, comme il est beau et en même temps très laid. Parfois.
Bah, contrasté, c'est-à-dire la beauté.
Très contrasté.
Il y a la beauté et la laideur, il y a la terre et il y a les autoroutes, il y a les plantes et le bitume.
Exactement. Ça, c'était prévu et c'était une intention depuis le début, oui. Pour le montrer, le Portugal d'aujourd'hui, qui est fait de contradictions, comme tous les pays, mais peut-être le Portugal, pour nous, un peu plus.
Vous avez été longtemps l'assistant de Manuel de Oliveira, mais aussi de Wim Wenders, d'Alain Tanner, de Werner Schroeter, de Paulo Rocha. Est-ce que votre cinéma, João Canijo, s'inscrit dans ce qu'on appelle le naturalisme ?
Non. Je voudrais bien que ça s'inscrit sur le réalisme, pas le naturalisme, non. Ce film, Fatima, il est plus naturaliste que d'habitude, dû aux circonstances. C'était impossible de faire de mise en scène assez bien que le découpage était très précis, la mise en scène ne pourrait pas l'être. Donc, il est un peu plus naturaliste. Non, pas du tout sur le naturalisme. Et aussi, je me revois pas dans les soi-disant maîtres que j'ai eus. D'ailleurs, je considère que j'ai seulement eu un maître, qui c'est Manuel de Oliveira. Mais mon cinéma n'a rien à voir avec celui de Manuel de Oliveira.
En quoi ils sont différents, vous, de cinéma?
Monsieur Oliveira avait l'idée que la réalité n'est pas représentable et qu'il fallait seulement la présenter un peu à la Bresson. Et moi, non. Je crois à l'interprétation. Lui, il ne croyait pas du tout à l'interprétation.
De la réalité.
De la réalité ou d'un personnage, d'un rôle.
Et pourtant, vous admirez Manuel de Oliveira, vous le considérez comme un maître.
Oui, parce qu'il m'a... C'était le grand maître de l'éthique.
L'éthique.
De l'éthique professionnelle.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'éthique professionnelle, dans le milieu du cinéma?
C'est-à-dire qu'il m'a appris une chose essentielle, peut-être la seule, mais c'est la plus importante, qu'avant tout, il faut être sérieux avec soi-même. Pas se tromper, pas utiliser des effets, pas utiliser des trucs... plonger dans soi-même pour essayer de trouver une vérité que c'est pas une vérité universelle, mais que c'est votre vérité, notre vérité personnelle, et être fidèle à ça.
Enfin, pour terminer, Ansua Fatima, a-t-il été vu par les Portugais? Il est sorti au Portugal?
Bien sûr, il est sorti au Portugal.
Comment ils ont réagi, les spectateurs?
Ils ont réagi très bien.
Pourtant, c'est assez désarçonnant. C'est pas un film religieux. On aurait pu croire que c'est un film sur une pratique religieuse, sur un pèlerinage religieux, et ça l'est pas du tout, ou si peu.
Mais aussi, ça ne prend pas de parti, ça critique pas, ça se limite à montrer la réalité. Je ne dis pas la vérité, je dis la réalité. Il y a une réalité assez particulière, c'est la réalité de ce groupe. Parce que chaque pèlerinage est différent, dépendant du groupe qui le fait.
Ça, c'est la réalité. Et la vérité, pour vous
Je n'ai pas.
Ouais, c'est la religion
La vérité, pour moi, continue à être l'incompréhension de la force de la religion.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle de savoir que Portugal, des films continuent à se tourner. Est-ce à dire que la crise qui a frappé votre pays au niveau du cinéma est derrière vous, João Canijo?
Oui, on n'a pas une crise terrible. Non, on l'a jamais eu. On a eu un hiatus. Pendant 2011-2012, l'argent du cinéma a été retenu au ministère des Finances à cause de la crise, mais l'argent a été toujours là. Le système portugais, exactement, c'est une copie du système français.
Donc
c'est-à-dire que l'argent ne vient pas de l'argent des... Comment est-ce qu'on dit les gens qui payent les impôts?
Contribuables.
Les contribuables, ça vient des taxes sur les billets de cinéma, etc., 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 comme au CNC ici. Donc on est indépendant.
Et ça veut dire que les Portugais continuent à aller au cinéma?
Oui, mais c'est pas ça. Le taxe sur les billets de cinéma, c'est pas ce que fait le gros boulot, le gros...
Du budget, ouais.
Budget. Non. Maintenant, non.
Ça vient d'où alors?
Ça vient d'une taxe sur la pub en télé. Ça vient,
quelle bonne idée,
comme en France. Ça vient comme de taxes sur les abonnés de plateformes câbles, comme en France. Tout est copié de la France.
Merci beaucoup, João Canijo, d'être passé ce matin. Je rappelle que votre film « Onze fois Fatima » sort aujourd'hui dans quelques salles d'art et d'essai en France, mais un peu partout en France. Merci d'être passé.
Merci à moi de m'avoir.
Merci.
Sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour à 10h, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Qu'est-ce qu'un père? À quoi sert-il? Est-il forcément un homme? Détient-il toujours l'autorité? Faut-il s'en émanciper? Père rêvé ou désacralisé, débat sur le patriarcat et la procréation assistée, Retour aux sources du père de Fiodor Karamazov au Roi Lear, de Freud et Lacan à Simone de Beauvoir.
Les chemins de la philosophie, de lundi à vendredi à 10h et sur franceculture.fr.
Est-ce qu'en France, les migrants sont vraiment mieux traités que les SDF ? L'Europe aurait-elle été fondée sur ordre des services secrets américains ? Les OGM sont-ils dangereux pour la santé ? Mais surtout, ils sont là, ils sont cachés dans les villes, dans les campagnes. Les extraterrestres sont-ils parmi nous ? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais trop souvent des mauvaises réponses. Les idées claires, c'est votre pilule hebdomadaire contre la désinformation.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Des manifestants paralysent Hong Kong. Ils obligent le gouvernement à reporter l'examen d'un texte controversé. Des milliers de Hongkongais sont dans les rues de la ville en ce moment. Nous irons sur place. Nous reviendrons aussi sur le bureau politique du parti Les Républicains. C'était hier soir. Il a notamment été question du lobbying opéré par la majorité pour convaincre des élus de droite de les rallier. Le Premier ministre Édouard Philippe doit faire un discours de politique générale ce mercredi après-midi. Il est attendu notamment par l'aile gauche de la majorité. Vous l'entendrez. Et puis, que pensent les petits actionnaires de Renault du mariage annulé avec Fiat Chrysler et de la crise avec Nissan ? Nous leur avons posé la question à l'aube d'une assemblée générale. Les autorités hongkongaises reportent donc l'examen d'un projet de loi controversé, un texte visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Après un rassemblement monstre dimanche, des milliers de manifestants bloquaient encore ce matin plusieurs artères de la ville. Le texte aurait dû être examiné en seconde lecture aujourd'hui. Cela n'aura donc pas lieu, Florence de Changy.
Le gouvernement a momentanément cédé. Le camp pro-démocratie avait tenté de convaincre depuis lundi le président du Legco, Andrew Lang, de prendre cette décision au vu de la tension qui montait dans la population et aux abords immédiats du Parlement où des dizaines de milliers de manifestants sont arrivés ce matin bloquant le trafic. C'est un recul, c'est même un constat d'échec quant à l'attitude jusqu'au boutiste et intransigeante du gouvernement et sans doute en particulier de la chef de l'exécutif, Carrie Lam, connue pour être têtue, qui a pensé qu'elle pouvait passer en force en ignorant d'une part l'appel massif qu'a représenté la marche de 1 million de personnes ce week-end et en redoublant la vigilance policière, ce qui a contribué à faire monter la tension parmi la population et notamment les jeunes. Mais ce que l'on ne sait pas encore, c'est si ce rapport est inédit et que le projet de loi est bel et bien abandonné ou si ce n'est que reculer pour mieux sauter. Pour le moment, en tout cas, cela n'a pas suffi à calmer les manifestants qui vont sans doute vouloir obtenir une annulation complète du projet de loi.
Florence de Changy, depuis Hong Kong pour France Culture ce matin. Reporter également le réexamen de la demande de libération de Lula, l'ancien président du Brésil. Avant-hier, sur un site internet d'investigation, une enquête anticorruption était diffusée. Une enquête sur la mise en prison de Lula qui a été orchestrée par un ministre de l'actuel gouvernement. Jair Bolsonaro. Les contestataires soudanais mettent fin au mouvement de désobéissance civile. Ils acceptent également de reprendre les discussions avec les militaires au pouvoir. Les opposants réclament toujours, je vous le rappelle, un gouvernement civil après la chute du président Omar el-Béchir au Soudan. En bref encore, notons qu'en Russie, le journaliste qui était accusé de trafic de drogue est disculpé, un fait rarissime. Les autorités russes ont abandonné les poursuites à l'encontre d'Ivan Golunov. Le reporter de 36 ans dénonçait un complot. Il était soutenu par de nombreuses associations et de certains de ses confrères. L'élection du nouveau président du parti Les Républicains aura lieu à la mi-octobre. Le bureau politique du parti l'a acté hier. On savait déjà que les présidents des assemblées Christian Jacob et Bruno Retailleau réfléchissaient à se présenter au poste de président du parti. Hier, le vice-président du parti Guillaume Pelletier a annoncé qu'il se laissait jusqu'à la fin juin pour se décider. Le député Éric Woerth s'est également montré intéressé. Le parti Les Républicains a également pris hier une résolution pour condamner tous les appels du pied de la majorité auprès des militants et des maires LR. Ces appels sont de plus en plus pressants à moins d'un an des municipales, Anne Fauquemberg.
Ces pressions, elles scandalisent le président par intérim, Jean Leonetti. Des coups de téléphone répétés aux élus LR, mais pas seulement, a-t-il raconté hier soir à la sortie du bureau politique.
Il y a des invitations qui sont assez régulières à l'Élysée ou à Matignon, de maires, de manière régulière. Je ne pense pas que, compte tenu du mépris qu'a eu Emmanuel Macron jusque-là pour les élus locaux, ça correspond à une volonté de renouer un dialogue, mais plutôt à une volonté de démarchage.
Jean Leonetti qui est aussi revenu sur les propos de l'eurodéputé LAREM Gilles Boyer, qui a qualifié d'ennemi du président tous ceux qui seront élus sans l'aide ou l'apport de la majorité. Propos pour lesquels l'ex-conseiller politique d'Édouard Philippe s'est excusé depuis, mais qui en disent long sur la mentalité à La République En Marche, estime Jean Leonetti.
Nous, on pense qu'on n'a pas d'ennemis, on a des adversaires. Pour moi, Gilles Boyer sera jamais mon ennemi. Pour autant, je trouve que cette démarche et cette phrase est assez significative de la pression qui a été mise sur l'ensemble des élus locaux. Et nous, on veut les laisser libres. On les incite aussi, non pas à la résistance, mais à du courage.
Et pas question donc d'attendre l'élection du futur président du parti en se laissant dépecer sagement. En accord avec Gérard Larcher au Sénat, le président par intérim organisera fin juin ou début juillet à Paris une convention sur les valeurs et les fondamentaux de la droite républicaine.
Lui doit prendre des engagements aujourd'hui pour la deuxième partie du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre Édouard Philippe doit cet après-midi donner un discours de politique générale. Il est attendu à partir de 15h devant les députés de l'Assemblée nationale. Et dans l'hémicycle, l'aile gauche de la majorité espère un virage à gauche, Rosalie Lafarge.
Il refuse l'expression « virage à gauche », préfère parler de tournant progressiste, mais au-delà des mots, c'est bien ça qu'attendent les députés de l'aile gauche de la majorité. « On a déjà siphonné la droite, il faut maintenant s'occuper des autres », résume un ancien socialiste. Les autres, la gauche démocrate du PS, de Génération et d'Europe Écologie Les Verts. Pour cela, cette partie de la majorité espère voir dans ce discours de politique générale de véritables signaux, la promesse d'un vote sur la procréation médicalement assistée avant la fin de l'année, une réforme de l'assurance chômage pas trop violente et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écologie. Sur le fond, on doit en faire plus, mais sur la forme aussi, glisse l'un des chefs de file de cette aile gauche. Il est d'ailleurs à la manœuvre pour tenter de créer en interne une structure capable d'incarner cette voie plus sociale au sein de l'REM. Il serait pour l'instant une petite cinquantaine à vouloir la porter, cette voie, mais au sein du parti, pas en dehors, hors de question de faire sécession. L'objectif, c'est de peser, de forcer un peu ce virage à gauche pour essayer d'en finir avec l'image de président de droite qui colle à la peau d'Emmanuel Macron.
Et notons que l'ensemble des députés de gauche ainsi qu'une large majorité des élus, les Républicains, ont prévu a priori de voter contre la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe après le discours tout à l'heure. Le Premier ministre sera ensuite devant le Sénat demain. Et quand un groupe pétrolier se pose en défenseur du climat, oui, cela se passe en Grande-Bretagne. Il s'agit de British Petroleum, BP. Il vient de publier un rapport qui chiffre l'utilisation des énergies fossiles et qui pointe le danger d'accélération du réchauffement climatique, Antoine Gignot.
Ce que mettent en avant les économistes du groupe pétrolier, c'est le décalage entre le discours écologiste qui prend de l'ampleur et la consommation énergétique des pays industrialisés. Les émissions de dioxyde de carbone ont augmenté l'an dernier de 2% dans le monde. C'est la plus forte hausse de ces 7 dernières années. Les Américains, par exemple, n'ont jamais autant utilisé leur chauffage et leur climatisation et l'offre mondiale de pétrole a augmenté de 2,5 millions de barils par jour, notamment à cause de l'exploitation des gisements de schiste aux États-Unis. Conséquence, même si la part des énergies renouvelables a progressé de près de 15%, elle est toujours deux fois plus faible que celle du pétrole, du gaz et du charbon, qui reste à un niveau désespérément inchangé, écrivent les économistes de BP. Les mots ne sont pas employés au hasard. Les porte-paroles du géant pétrolier ont profité de l'Assemblée générale le mois dernier pour annoncer que l'objectif était désormais de respecter l'accord de Paris sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Mais derrière cet engagement écologique, le groupe continue ses explorations de gisements de pétrole. Dimanche, des militants de Greenpeace ont bloqué le départ d'une plateforme pétrolière de 27 000 tonnes qui devait aller s'installer en mer du Nord au large de l'Écosse.
Antoine Gignot depuis Londres. Pour France Culture. Une première depuis 20 ans. Cet après-midi se déroulera une assemblée générale de Renault sans Carlos Ghosn. À Paris, les petits porteurs vont se retrouver face au nouveau président de l'Alliance, Jean-Dominique Senard. Les dossiers du moment sont assez brûlants. Entre l'affaire Ghosn qui implique son partenaire japonais Nissan et la fusion avec Chrysler, Fiat Chrysler, fusion pour le moment avortée, la direction du groupe va devoir s'expliquer, Maxime Debs.
Cette AG devait marquer la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Elle prend des allures de test pour la nouvelle direction, laquelle a fâché les Japonais en discutant en cachette avec les Italiens. Pour Fabien Gache de la CGT Renault, sur ce cafouillage, le nouveau président de l'Alliance devra forcément s'expliquer.
Monsieur Sénard a créé les conditions pour que les choses se passent au plus mal. Parce que s'il y avait volonté de vouloir renouer la confiance entre Renault et Nissan, le fait de les ignorer ou de les écarter de discussion avec Fiat n'était quand même pas la meilleure des choses qu'ils puissent faire. Enfin, ça relève de l'amateurisme.
Amateurisme ou précipitation, Jean-Dominique Senard devra faire preuve de pédagogie pour justifier son empressement qui pourrait demain fragiliser encore un peu plus l'Alliance. Les petits porteurs risquent de l'attendre au tournant. Didier Cornardo préside l'APAC, une association de petits actionnaires.
Il faut que le président puisse éclairer les actionnaires en disant pourquoi il a proposé ce projet-là. En tant que petit actionnaire, j'ai dit ça tient la route, c'est normal. Mais il faut qu'il l'explique un peu mieux. Le conseil d'administration n'a pas pu répondre pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de savoir comment vont réagir les actionnaires en Assemblée Générale.
Comment vont-ils réagir ? Donc on verra cet après-midi. En attendant, les discussions semblent continuer en coulisses. Un haut cadre de Fiat aurait été aperçu hier dans les couloirs au siège de Boulogne-Billancourt.
Le temps de ce mercredi, il sera largement instable sur un gros quart nord-ouest du pays, en traversée orage de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Lorraine. Ailleurs, les éclaircies seront belles. Comptez ce matin 13 degrés à Rennes, 14 à Bordeaux, Lille, Besançon, 15 degrés à Paris et Lyon, 21 à Nice. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées à 6h40 sur France Culture. Et vous revenez Jacques sur ces trois djihadistes et leurs 9 enfants qui ont été remis hier à la justice française par la Turquie.
Et oui, et comme le précise Le Monde, il s'agit d'une opération distincte des rapatriements d'enfants en provenance du Kurdistan syrien et qui s'inscrit dans le cadre des expulsions régulières de djihadistes par la Turquie. À la fin de mai 2019, les autorités françaises avaient enregistré le retour de 277 personnes. Les enfants, quant à eux, seront placés en Seine-Saint-Denis, dont dépend l'aéroport de Roissy, par lequel se fait la majorité des retours. Le président du conseil départemental, Stéphane Troussel, déplore la démission de l'État. En refusant d'assumer l'accueil des ressortissants français et de leurs enfants, il ne permet pas d'anticiper et ne prend pas ses responsabilités, a-t-il dénoncé, en appelant les autorités à donner au département les moyens d'assurer cette mission essentielle. Sur le terrain syrien, un nouveau conflit alimentaire, cette fois, menace les populations, la bataille du blé. Dans un pays ravagé depuis 2011 par une guerre meurtrière où des millions de personnes sont incapables de répondre à leurs besoins alimentaires, le blé est aussi au cœur du conflit, résume Courrier International avec l'AFP. Après une récolte catastrophique en 2018 pour cause notamment de météo, celle de 2019 s'annonce généreuse malgré de récents incendies qui ont ravagé des centaines d'hectares, certains revendiqués par le groupe État islamique. Pour le pouvoir de Bachar al-Assad, mais aussi pour les autorités semi-autonomes kurdes du nord-est syrien, il est vital de mettre la main sur les récoltes de cette région considérée comme le grenier à blé du pays. D'où une surenchère sur les prix pour amener les agriculteurs à vendre au plus offrant. Après avoir tenté d'interdire aux fermiers de vendre leur blé à Damas, les autorités locales kurdes sont revenues en mai sur leur décision tout en imposant une condition. Les récoltes achetées par le régime ne peuvent pas quitter la région afin que la population locale en reste la bénéficiaire. Car les Kurdes estiment que la production est à peine suffisante pour la nourrir. Engagés dans de délicates négociations avec le pouvoir de Damas pour assurer leur autonomie sur le Kurdistan syrien, ils voient dans cette offensive sur le blé un moyen d'exercer une pression politique. De son côté, le régime a besoin de l'accès aux céréales du Nord-Est pour prévenir une crise du pain dans les régions qu'il contrôle, affirme Nicolas Heras, expert du Center for New American Security, qui ajoute « Le blé est une arme très puissante dans cette prochaine phase du conflit. Les États-Unis, alliés des Kurdes contre Daesh, veulent utiliser les ressources dans les territoires kurdes, notamment les céréales, comme un levier pour faire pression sur le régime, souligne-t-il. L'objectif pourrait être d'imposer des concessions au régime et à son allié russe au moment où de négociations de paix menées sous l'égide de l'ONU qui sont aujourd'hui au point mort. La démocratie communaliste d'ores et déjà installée au Kurdistan syrien est basée sur des conseils communaux et des assemblées régionales élues avec un quota de femmes et de représentants des communautés non kurdes, arabes et chrétiennes syriaques. Elle constitue de fait la seule alternative existante à la dictature en place dans le pays. « Nous sommes la véritable opposition », déclarait il y a peu Ilham Ahmed, qui préside l'exécutif du Conseil démocratique syrien, la branche politique des forces démocratiques syriennes qui contrôle tout le nord-est de la Syrie. Cette kurde, originaire d'Afrin, ajoute que la plupart des groupes armés sur le terrain sont des extrémistes et ils ont le soutien de la Turquie. Dans l'est de la Turquie, aux élections de mars dernier, l'opposition kurde a repris des mairies dépouillées par les équipes d'Erdogan. Les administrateurs nommés par Ankara avaient vidé les caisses et bradé le patrimoine immobilier avant de partir, comme le montre le grand reportage réalisé par Nicolas Cheviron pour Mediapart. Ainsi, à Yeniseyir, un arrondissement de Diyarbakir, d'une population de 226 000 habitants, l'administrateur judiciaire a profité de son mandat pour transférer gracieusement à diverses institutions étatiques et fondations privées, pour des durées allant de 5 à 25 ans, la plupart des biens immobiliers de la mairie. Parmi les heureux bénéficiaires, la direction départementale des affaires religieuses qui hérite d'un centre culturel ou la fondation de la jeunesse de Turquie spécialisée dans la promotion des valeurs islamiques. Pour Mehmet Zirig, le maire de Cizre, ce saccage des finances municipales répond à un objectif clair. Depuis 40 ans, les habitants de la région ressentent l'action de l'État comme une oppression et n'ont confiance qu'en une seule institution, la mairie. L'objectif aujourd'hui est de montrer à la société que cette institution est inepte et ne sert à rien. Le Kurdistan est peut-être en train de devenir la région pilote d'une transformation en profondeur de l'administration locale. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, les démocraties africaines.
Oui, vous l'avez entendu, nouvelles promesses et nouveaux espoirs, hésitation dans la transition démocratique au Soudan après 20 années d'autoritarisme, trajectoire presque inverse, mais hésitation aussi au Bénin, autrefois démocratie modèle, marquée encore hier par des violences post-électorales. Ceci alors qu'aujourd'hui, au Nigeria, eh bien, c'est le Democracy Day, le jour même de l'investiture du président Buhari réélu. Alors, est-ce la fin, le retour des autoritarisme, les démocraties africaines en tout cas semblent bien à l'ère des divergences, tour et détour, c'est ce que vous écrivez dans ce dossier de politique étrangère consacré aux démocraties africaines. Thierry Vircoulon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin. Vous êtes chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI et co-directeur de ce dossier consacré à l'Afrique. Donc, dans le numéro de politique étrangère de l'été 2019, vous y avez écrit deux articles qu'on commence avec le Nigeria, hein, puisque c'est aujourd'hui l'investiture de Buhari, réélu pour un second mandat, 20 ans après la fin de la dictature militaire. Simplement, le fait qu'il ait lui-même choisi de déplacer légèrement la date de ce Democracy Day, c'est significatif quand même de la tournure ou de la légitimité qu'il veut donner à son second mandat ?
Oui, peut-être. La signification n'est pas tout à fait évidente, mais il est clair que ce second mandat n'est pas tout à fait une bonne nouvelle pour le Nigeria, puisque le premier mandat n'a pas été très performant. Et ça reflète l'état d'un certain nombre de régimes qui ne sont pas en mesure en Afrique de trouver les solutions aux problèmes de la population.
Alors avec un cas peut-être particulier ou pas pour le Nigeria, puisque un article y est consacré dans la revue, c'est ce que Marc-Antoine Pérouse de Monclos appelle « Demo Crazy », puisque c'est un mélange, on pourrait dire, d'institutions stables, mais dit-il, incapable de créer de la cohésion nationale. C'est le même jugement que vous portez ?
Oui, il y a un processus de fragmentation du Nigeria, de fragmentation interne du Nigeria, et surtout, ce sont des régimes qui ont été incapables d'apporter des solutions aux problèmes socio-économiques de la population, et ça, c'est assez commun en Afrique.
Et alors, est-ce qu'il faudrait parler de démocratie à minima ou forcément dysfonctionnelle? Marc-Antoine Pérouse de Monclos note encore que les Nigérians parlent de régime civil, pas de démocratie. Vous, vous dites finalement, il n'y a qu'un seul État pétrolier qui peut être considéré comme réellement démocratique en Afrique, c'est le Ghana. Est-ce que c'est vraiment ça?
Oui, c'est la question des États rentiers et montre que ce sont des États qui sont rarement démocratiques. Et en fait, la découverte du pétrole au Ghana est récente. Et donc, on verra dans l'avenir quel sera l'impact de cette découverte sur le régime politique du pays.
Mmh. Et alors, autre actualité, je le disais, c'est le Soudan là qui hésite un peu dans cette transition démocratique. Un pays qui sort de 20 ans de pouvoir de parti quasi unique. Comment est-ce que vous estimez son évolution? Est-ce que c'est une transition démocratique qu'on pourrait dire sans lendemain, où il y a réellement une inflexion et disons une capacité du conseil militaire et des militaires à aller dans ce sens des discussions avec les civils?
Non, le conseil militaire a prouvé avec les dernières violences qu'il n'était pas prêt à aller dans ce sens-là. Au Soudan comme en Algérie, on voit bien que la révolte de la société civile se heurte au pouvoir militaire et que dans ces deux pays, on a des pouvoirs militaires qui sont tout à fait anachroniques. Donc on va voir si ils arrivent à se maintenir et à contrer la demande démocratique de la société civile. Je pense que ça va être les semaines qui viennent vont être majeures au Soudan. Quand on regarde le Soudan et l'Algérie, on voit bien qu'on a affaire à des régimes qui ont été congelés pendant très longtemps et qui sont du fait de l'importance de l'armée, des régimes extrêmement anachroniques par rapport aux autres régimes politiques en Afrique.
Et alors justement, quand vous dites anachronique, c'est ce que vous notez dans un des articles, disons que le refus et l'échec des juntes militaires, est-ce que c'est pas le premier signe ces 15 dernières années, disons, d'un approfondissement démocratique en Afrique? Quand je dis rejet, c'est Guinée-Conakry par exemple, ou même Mali?
Non, c'est pas le signe d'un approfondissement de la démocratie, c'est le signe du fait que le régime militaire sont passés de mode. Mais il faut pas confondre ça avec un approfondissement de la démocratie. En fait, on observe que il y a en Afrique des démocraties véritables qui sont assez minoritaires. Il y a une majorité de démocraties de façade. Et malheureusement, quand on regarde les démocraties véritables, on s'aperçoit que beaucoup d'entre elles ne sont pas performantes, c'est-à-dire, comme je le disais pour le Nigeria, n'arrivent pas à résoudre les problèmes socio-économiques du pays et pour certains sécuritaires. Le Burkina Faso est une véritable démocratie et on voit que le régime n'est pas en mesure de gérer les problèmes socio-économiques et maintenant sécuritaires très sérieux qui se posent à ce pays. Oui. Donc il y a un risque de désenchantement démocratique à terme.
Oui, le Burkina Faso qui avait été considéré comme un pays modèle et à l'époque de ce qu'on avait appelé un printemps africain, qui avait subi une tentative de coup d'État. Qu'on reste encore une fois, juste un mot sur l'armée. Quand même, le fait que par exemple au Zimbabwe en 2017, l'armée n'ait pas destitué justement le président Robert Mugabe, mais l'ait en quelque sorte poussé à partir, quand vous dites l'armée est passée de mode, en fait, est-ce que c'est pas juste que ce type de régime n'a plus aucune légitimité aujourd'hui et plus aucun avenir en Afrique?
Disons que les juntes militaires sont en effet passées de mode, mais ça ne veut pas dire que l'armée n'est pas un acteur du pouvoir très important. Et au Zimbabwe, c'est le cas. C'est l'armée qui a poussé Robert Mugabe dehors, ça c'est clair, et c'est elle qui reste encore très largement aux commandes au Zimbabwe. Donc là, on est en effet, les juntes militaires ne sont plus acceptables, mais ça n'empêche pas les stratégies de dissimulation du pouvoir militaire. Et quand on voit des crises comme au Soudan ou au Zimbabwe, on voit très vite l'armée sortir et jouer un rôle politique majeur. Et actuellement, que ce soit en Algérie ou au Soudan, c'est l'armée qui détient la clé de l'avenir de ces pays.
Et précisément, un cas ou une zone où il y a ambiguïté sur l'armée ou plutôt les groupes armés, là vous avez consacré aussi un article, c'est la RCA, République Centrafricaine, où il y a la tentative d'une sorte de démocratie, on pourrait dire, post-conflit. Mais vous, après avoir longtemps étudié la question, vous n'y croyez pas du tout. Hein. Vous parlez d'échecs après 5 ou 6 accords quand même, des accords qui sont sans cesse dénoncés. Quel avenir a ces négociations avec des groupes armés et un gouvernement installé démocratiquement?
C'est un gouvernement installé électoralement, mais le problème fondamental de la RCA et de la RDC et d'autres pays post-conflit, c'est que en fait il n'y a pas de changement de gouvernance avant et après le conflit. La gouvernance prédatrice qui existait avant le conflit existe après le conflit, et c'est pour ça que ces pays sont dans un cycle en fait de conflits très souvent, et qu'on voit tous les 10 ans reparaître les mêmes instabilités.
Et alors, justement, là, vous avez dit gouvernance prédatrice, sans aller jusqu'aux actions armées. Est-ce que c'est pas ça qui caractérise une grande partie des régimes d'Afrique subsaharienne, même si démocratie nominale, on pourrait dire, mais c'est ce que vous appelez la domination des régimes hybrides, avec une prédation ou bien familiale ou bien par homme fort, c'est un peu ça?
Oui, c'est en effet cette situation. On se rend compte que dans beaucoup de pays africains, la classe politique a un comportement tout à fait prédateur et a fini par retirer la substance de l'État et n'en faire plus que une entreprise de taxation et non plus une entreprise de fourniture de services à la population. Et du coup, on se retrouve avec un retournement en quelque sorte de l'État, où il n'y a plus que le côté négatif de l'État et il n'y a plus son côté positif.
Oui, avec peut-être pour nos auditeurs un exemple dans l'actualité récente, le discours d'Ali Bongo le week-end dernier, qui annonce un remaniement ministériel alors que c'est sa légitimité et sa capacité à rester à la tête de l'État qui est remise en cause. Autre exemple intéressant, un article y est consacré dans la revue, c'est l'exemple mauritanien aussi, vous l'appelez comme tel, avec une présidentielle le 22 juin et une première passation de pouvoir démocratique ou une deuxième en vue en fait.
Oui. Alors la Mauritanie est un exemple très intéressant parce qu'il montre que après la démocratisation qui a eu lieu dans les années 90, il s'est formé un groupe politico-économico-politique qui est hégémonique et qui réussit à se maintenir au pouvoir à travers les élections. Et donc là aussi, c'est une sorte de déviance de la démocratie puisque ce groupe bloque en fait toute alternance et réussit à se renouveler parce qu'il détient tous les leviers économiques et politiques du pouvoir.
Et quand bien même, justement, vous invitez dans ce numéro à sortir de ce que vous appelez l'obsession électorale pour étudier le fonctionnement de ces démocraties africaines. Et est-ce que là, dans quand même la configuration électorale, on n'a pas une bonne offre politique quand même? 6 candidats, il y a un candidat d'alliance d'opposition large, même un candidat anti-esclavagiste qui était arrivé deuxième. Est-ce que c'est pas un signe positif, ça?
On verra quel est le résultat des élections, mais il est clair que très souvent, les oppositions ne sont pas capables de s'unir, et c'est pour ça qu'elles sont défaites, une des raisons pour lesquelles elles sont défaites très, très fréquemment.
Écoutez, ce sera à suivre, on renverra ce numéro de Politique étrangère, la démocratie en Afrique, tour et détour. Merci beaucoup pour aujourd'hui, Thierry Vircoulon. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente les Journées Nationales de l'Archéologie. Partout en France, revivez votre histoire. Passionnés ou simples curieux, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique. Plus de 600 lieux vous ouvrent leurs portes. Au programme, visites de fouilles, ateliers pour tous, villages de l'archéologie, expositions et rencontres. Les 10e Journées Nationales de l'Archéologie, du 14 au 16 juin, organisées par l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive sous l'égide du ministère de la Culture. Un partenariat France Culture.
France Culture, 6h57, c'est l'heure des matins, présenté par Guillaume Erner. Bonjour Guillaume.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Alors, faut-il être idiot pour être antisémite?
La réponse est non, mais ça peut aider quand même. Alors, pour être franc, de grandes intelligences ont été, sont ou seront antisémites. Voltaire, Karl Marx, Roger, Garaudy. Et puis, Et puis il y a Étienne Chouard, ce prof qui s'est fait connaître au moment du référendum sur l'Europe en 2005, devenu à la faveur de la crise des Gilets jaunes, l'un des théoriciens du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et lorsqu'il est question d'Étienne Chouard, on songe au mot de Bebel, ce social-démocrate allemand du 19e siècle, lequel estimait, je le cite, l'antisémitisme et le socialisme des imbéciles. Or donc, Étienne Chouard, interrogé sur le média, sur l'existence des chambres à gaz, a estimé qu'il ne pouvait pas se prononcer, puisqu'il n'avait pas travaillé la question. D'où le problème suivant, Étienne Chouard est-il un antisémite, un imbécile, ou bien les deux à la fois? Car cette forme de révisionnisme sur le mode « je ne sais pas ce qui s'est passé à Auschwitz, je n'y étais pas » arbore le chic radical du doute scientifique. Pour autant, c'est Descartes, au petit pied, défend une position impossible à tenir, car chaque page de chaque livre d'histoire est pleine d'histoires rapportées pour des gens qui n'y étaient pas. Je n'étais pas à Alésia, à Valmy, au mur des fédérés. C'est d'ailleurs pour ça que ces événements relève de l'histoire. Je ne suis pas plus capable de corroborer les théories d'Einstein ou de Darwin, et c'est la raison pour laquelle il existe une forme de division du travail entre les spécialistes et ceux qui ne le sont pas. Je ne peux pas être spécialiste en tout, sauf à vouloir être ignorant en tout. Du reste, Descartes n'a jamais invité au doute radical, il a surtout incité à douter de nos sens, lesquels peuvent nous tromper. En réalité, on a tout lieu de soupçonner chez Chouard non pas un doute radical, mais un doute sélectif, ou autrement dit, on peut douter de son doute et penser que ce doute-là lui fournit une certitude corroborant sa conception antisémite du monde. Pour Auschwitz, Chouard ne sait pas, et concernant l'antisémitisme contemporain, Chouard ne croit pas. Il ne croit pas qu'il existe des gens qui détestent les Juifs. Ces deux assertions suffisent à savoir à quoi s'en tenir au sujet de ce personnage. Il y avait les idiots utiles de l'antisémitisme. Chouard vient d'inventer la catégorie d'idiots inutiles.